Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès, aujourd'hui avec Alexandre Cagzan. Et à la une de l'émission, vous l'avez entendu quand on en parlait tout à l'heure avec Jérôme Florin et Sophie Orange, l'affaire des fiancés de Fontainebleau. Même ceux qui ne se souviennent plus exactement des circonstances de cette affaire tragique qui s'est déroulée à la fin du XXe siècle, 1988. Même pour cela, les fiancés de Fontainebleau, c'est une expression qui reste empreinte dans nos mémoires. Il s'agit de ces deux jeunes gens, 25 ans, partis pour une promenade en forêt de Fontainebleau un jour d'ouverture de la chasse et qui ne sont jamais revenus. On a mis des semaines et des semaines à retrouver leur cadavre. Si on voulait faire un résumé tragique de cette affaire, on dirait trois cadavres, deux armes jamais retrouvées, un mobile inconnu, un suspect acquitté, un suicide et des pistes qui n'ont peut-être pas toutes été explorées jusqu'au bout. Une piste terroriste, une piste égyptienne. On va en parler avec mes invités. Cette émission est donc évidemment sous le signe de cette question. Qui a tué les fiancés de Fontainebleau? C'est le titre que Christian Porte avait donné à son livre il y a quelques années. Bonjour Christian Porte.
Bonjour Jacques.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Le livre date, je ne sais plus d'ailleurs, de 2008 ou quelque chose
2007.
Comme ça. 2007. Et vous me disiez, hors micro, avant qu'on commence l'émission, vous annoncez pour la fin de l'année un autre livre, Révélation sur un fiasco judiciaire. Un livre apparaît donc avant la fin de cette année.
Tout à fait, Jacques. Il faut prendre en considération que le dossier est aujourd'hui prescrit, ce qui facilite les informations et l'accès à certaines informations.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de secret d'instruction, c'est ça que vous voulez dire, et vous sentez d'une certaine manière plus libre que vous ne l'avez été jusqu'à présent.
Oui, et puis depuis deux ans, j'ai revu le dossier page par page et j'ai trouvé des pistes qui n'ont pas été exploitées.
Alors, à l'époque, en 1988, vous étiez rédacteur en chef adjoint du Républicain de l'Essonne. C'est pour ce journal que vous avez mené l'enquête. Et le fait que vous en parliez encore aujourd'hui, en 2014, ce qu'on peut dire, c'est un dossier qui domine votre vie. C'est rare pour un journaliste. Une enquête, c'est normal. Vous êtes travaillez dans un journal de la région, donc c'est une affaire importante. Mais pourquoi cette histoire vous a-t-elle envahi à ce point?
Parce que je pense qu'à moins de 50 km de Paris, se faire assassiner un jour de la Toussaint, c'est pas logique. Et c'est encore moins logique de pas trouver qui a commis le meurtre. Imaginez les parents, depuis maintenant près de 25 ans, ils ont toujours pas pu faire leur deuil, puisque à défaut de savoir qui, ils ne savent même pas pourquoi leurs enfants ont été tués.
Alors on va en parler évidemment avec vous, Madame Berux, Maître Berux. Donc vous êtes l'avocate de la famille. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'impact de cette affaire sur ceux que vous avez défendus jusqu'à présent, la famille de Gilles Naudet?
J'allais dire que c'est un drame épouvantable. Dans le déroulement déjà, puisqu'ils ont attendu des semaines, voire des mois, pour qu'on retrouve les corps, avec un sentiment peut-être d'espoir à certains moments et d'abattement à d'autres. Et puis ensuite un procès qui s'est terminé par un acquittement et un questionnement qui demeure. Au jour d'aujourd'hui, Monsieur Naudet est décédé dans des conditions difficiles. Et j'allais dire que ce meurtre, la disparition de son fils qui devait rentrer le soir pour l'aider à ranger du bois, l'a hanté, et à juste titre. C'est monstrueux, et c'est monstrueux qu'il n'y ait pas de réponse judiciaire.
Ouais. Et vous, alors, en tant qu'avocate, Françoise Berux, vous avez tout tenté pour sauver le dossier?
Régulièrement, on tentait, notamment Monsieur Porte, j'allais dire, comme un accord, de relancer le dossier pour éviter que, parce qu'il y a eu plusieurs magistrats, oui, juges d'instruction, que le dossier finisse au classement. Oui. Sans suite, ça a été la première, j'allais dire, la première bagarre. Et la seconde, c'est suite à l'acquittement, quand j'ai su par mes antennes que le dossier était au sous-sol du palais de justice, c'est-à-dire aux archives, j'ai tenté de secouer, entre guillemets, le parquet. puisque le parquet a la possibilité de relancer les affaires, mais en vain. Donc j'ai fait une plainte avec constitution de partie civile. On m'a fait consigner l'argent, 1300 euros à mes clients, pour deux mois après dire que c'était irrecevable. Ouais. J'ai fait appel, ça a été bien évidemment confirmé. Nous avons écrit également à l'époque au ministre de la Justice. Nous n'avons pas eu de réponse, bien entendu. Mais c'est vrai que je trouvais ça scandaleux que des victimes ne puissent pas avoir le droit à la vérité.
Alors, on va longuement reparler de tout cela avec vous, de l'enquête de Christian Porte, mais là je pense à ceux simplement qui découvriraient peut-être l'histoire des fiancés de Fontainebleau aujourd'hui. Nous allons maintenant rappeler en quelques minutes les circonstances dans lesquelles cette affaire a fini par faire la une de l'actualité. Nous sommes le lundi 31 octobre 1988, l'actualité est en roue libre ce jour-là. Le climat est exceptionnellement doux dans la région parisienne. Le long week-end de la Toussaint s'annonce sous les couleurs d'un été indien qui incite de nombreux promeneurs à profiter de la nature. Et c'est le choix qu'ont fait justement deux jeunes gens de 25 ans, Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet. Elle est assistante sociale dans le Val d'Oise. Lui, il est employé de banque à l'agence de Créteil du Crédit Mutuel. Gilles, en fait, veut profiter de ce lundi pour faire découvrir à sa compagne un des endroits qu'il préfère dans la forêt de Fontainebleau, le secteur du massif des Trois Pignons, en pleine forêt domaniale, un paradis pour les grimpeurs et surtout pour les randonneurs. Alors, ils ont emporté un pique-nique et puis aussi des vêtements confortables qu'ils ont mis dans leur sac à dos. Ils quittent Bois-le-Roi, où ils habitent en milieu de matinée, en compagnie de Dundee, leur jeune chien berger des Pyrénées, un chiot qui est âgé de 9 mois. Comme ils ont prévu de retrouver le soir même des amis pour dîner, ils prévoient de rentrer chez eux en fait en début d'après-midi. Et puis après avoir garé donc leur Peugeot 304 sur le parking de la Feuillardière, en pleine forêt, ils ont prévu d'emprunter le GR11 qui serpente dans cette partie du massif des Trois Pignons. À la nuit tombée, Anne-Sophie et Gilles n'ont toujours pas rejoint leur maison de Bois-le-Roi. Leurs amis cherchent à les joindre sans succès, ils sont introuvables. Depuis 18h, les parents de Gilles sont également très inquiets. Ils pensent à un éventuel accident, peut-être dû à un éboulement dans la forêt ou accident de voiture. Ils passeront la soirée à appeler un à un les hôpitaux de la région. Leurs amis qui devaient dîner en leur compagnie pensent, eux, qu'ils se sont peut-être perdus. Ils se disent que, surpris par la tombée de la nuit, les deux jeunes gens ont dû trouver refuge dans une des innombrables grottes du secteur. Ils rentreront, pensent-ils, certainement le lendemain. Mais le lendemain, toujours pas de nouvelles, ni les jours suivants. L'affaire est rendue publique 3 jours plus tard, le 3 novembre. Sur RTL, ce jour-là, Michel Cohen-Solal rappelait les circonstances de la disparition mystérieuse des deux jeunes randonneurs.
Des kilomètres et des kilomètres de terrain, de feuillages, de roches et rochers, autant dire que seul le hasard, la chance, le miracle ou le ratissage parfait permettront aux enquêteurs de retrouver Anne, l'infirmière, et Gilles, l'employé de banque. Un couple de Parisiens de 25 ans, fiancés qui vivaient en concubinage et qui lundi ont garé leur voiture en bordure de la départementale 409 sur le parking d'Arbonne. Avec eux, un petit chien de 7 mois, un jeune berger des Pyrénées, disparu lui aussi. Ce qui rajoute au mystère après la découverte de leur véhicule, fermé à clé avec pièces d'identité, papier et argent à l'intérieur. Rien ne permet pour l'instant d'avancer la moindre hypothèse. Tant que les recherches n'auront pas abouti, demain matin, les gendarmes de Seine-et-Marne mettront le paquet, comme ils disent, 400 hommes, des hélicoptères, 2 pelotons de motocyclistes, un escadron de garde, avec chevaux et des chiens, bien sûr. Pour l'instant, promeneurs et chasseurs sont interrogés. Lundi, il ne faut pas l'oublier, c'était l'ouverture de la chasse au gros gibier. Un accident s'est-il produit ? Accident aussi peut-être avec la région fréquentée par les spéléologues en herbe. Quant à l'affaire de mœurs, a priori personne n'y pense. Les relations affectives du couple semblaient tout à fait normales et le lieu de disparition est très éloigné des sentiers chauds et animés derrière les bosquets.
Et le vendredi 4 novembre, effectivement, les gendarmes mettent le paquet, comme le disait Michel Cohen-Solal. Les parents de Gilles ont alerté un officier supérieur de la gendarmerie avec qui ils ont des liens familiaux. Dès 8h du matin, 300 hommes sont sur place à la Feuillardière. Ils sont rejoints par une centaine d'élèves motocyclistes de l'école de la gendarmerie, par des militaires de la compagnie du régiment du train basé à Fontainebleau. Il y a également une cinquantaine de cavaliers de la garde républicaine, des chiens de recherche, un hélicoptère qui survole le secteur à basse altitude. Et puis le sous-préfet d'Evry, le directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne ont également rejoint les officiers de gendarmerie qui suivent les opérations depuis leur PC opérationnel installé sur le parking. Malgré cela, le résultat est décevant. Après avoir exploré mètre par mètre un secteur de 6 km de long sur 5 de profondeur, dont la lande désertique du plateau de la Marojon, pas de traces du couple ni de leur chien au pelage blanc qui aurait pu permettre de les localiser. Au soir de la 5e journée de recherche, les parents de Gilles déposent une plainte contre X pour séquestration. Dans les jours qui suivent, l'enquête des gendarmes s'intéresse au milieu des chasseurs et des braconniers, car on pense qu'un accident de chasse aurait pu causer la mort accidentelle des jeunes gens et que, pris de panique, le ou les auteurs auraient pu dissimuler leur corps. Les puits de la forêt, les nombreuses cavernes sont explorées par des spéléos, des plongeurs sondent les mares. On pense également à un simple accident, peut-être un éboulement, qui aurait pu causer la mort d'Anne-Sophie et de Gilles, dont les corps seraient peut-être enfouis sous des tonnes de rochers. Toujours pas de résultat. Et puis le mardi 10 janvier 1989, 6 semaines après la disparition des fiancés de Fontainebleau, il est un peu plus de midi lorsqu'un garde-chasse de l'ONF et 4 chasseurs de Milly-la-Forêt qui cherchent à localiser un sanglier blessé à la suite d'une partie de chasse arrivent sur la lande du secteur de la Marojon. Soudain, leur chien, un fox terrier, abandonne la piste du sanglier blessé. Il se dirige vers une forme partiellement recouverte de branches de bruyère qui semble avoir été fraîchement coupée. Les 5 hommes découvrent alors les cadavres d'un homme et d'une femme qui baignent dans un trou d'eau. Le corps d'un chien blanc est posé en travers de l'abdomen de la jeune femme qui est partiellement dévêtue. Le lendemain matin, sur RTL, la macabre découverte fait l'ouverture de la première édition du journal de Thierry Vatelet.
Les 2 cadavres retrouvés hier en forêt de Fontainebleau sont vraisemblablement ceux de Gilles Naudet et d'Anne-Sophie Vandamme, disparus en octobre dernier dans la région. Je dis vraisemblablement car il faudra attendre l'autopsie aujourd'hui pour en être tout à fait certain. Le jour de la Toussaint 88, c'était en octobre dernier, ils se dirigent vers le chemin de randonnée numéro 11. C'était leur promenade favorite. Les gendarmes, une fois la disparition annoncée, avaient pourtant fouillé méticuleusement tout le secteur, il n'avait rien trouvé, Philippe Chaffangeon.
C'est pourtant là, en bordure de ce chemin, près de la mare Aujon, que les 2 corps et le chien retrouvés hier étaient dissimulés sous des branchages. Un garde forestier les a trouvés, mais il aurait pu le faire il y a 15 jours, dans 6 mois, ou jamais dans ce terrain difficile, escarpé et marécageux. Et les gendarmes essaient de comprendre comment ils ont pu passer à côté, comment leurs chiens n'ont rien décelé, à moins que les 2 corps aient été amenés là plus tard. L'autopsie sera pratiquée dans la journée à Paris. Elle dira les blessures, s'il y a des traces de balles, de chevrotines, des fractures de membres ou autre chose. De quoi sont morts les jeunes gens? Que s'est-il passé le 31 octobre dans la forêt? Les enquêteurs vont reprendre les centaines d'auditions accumulées en 2 mois et demi d'enquête. Chasseurs, braconniers, promeneurs, une masse d'informations où se dissimule peut-être la solution.
Voilà, il fallait rappeler les circonstances de cette disparition et les premières recherches, et puis les questions évidemment qui se posent, des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. On en parle avec mes invités dans un instant. Christian Porte, qui a mené l'enquête à l'époque et qui continue aujourd'hui, et maître Françoise Berux, l'avocate de la famille Naudet.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors on retrouve Christian Porte et maître Françoise Berux. Je voudrais juste ajouter à ce qui a été dit que, bien entendu, Christian Porte, il va y avoir une autopsie et que cette autopsie va confirmer que Gilles et Anne-Sophie ont été, d'abord que c'est eux, bien sûr, puisqu'on a découvert des corps encore, fallait-il être sûr qu'il s'agissait des disparus, et ensuite donc cette autopsie confirme qu'ils ont été abattus de plusieurs balles de 22 longs rifles dont on a retrouvé les douilles sur place. Mais je voudrais vous poser une première question. Vous faites l'enquête pour votre journal. Vous êtes à un moment dans cet hélicoptère qui survole l'endroit où on va les trouver 6 semaines plus tard, finalement.
Alors, tout à fait. Il se trouve que le jour de la grande battue où il y a eu 800 personnes mobilisées sur le terrain, Je me suis d'abord trouvé avec les gendarmes de l'Essonne, puisque nous sommes à la limite des deux départements Seine-et-Marne et Essonne, donc j'étais à côté Essonne, et il se trouve qu'on va les découvrir, la mare au Jonc, la mare au Diable, c'est dans l'Essonne. Et je peux vous dire que je me trouvais avec l'escadron de gendarmerie de Corbeil-Essonne, on est passé à cet endroit-là. Et il se trouve que les bonnes relations que j'avais avec les gendarmes derrière m'ont fait passer, survoler l'endroit en hélicoptère, à basse altitude, et on n'a pas vu les corps à cet endroit à ce moment-là, alors qu'on peut penser qu'ils n'étaient pas de toute façon recouverts par la brière à ce moment-là.
Alors justement, parce qu'on l'a dit, hein, je l'ai repris dans mon petit récit tout à l'heure, les témoins là qui vont découvrir les corps disent que les brouillères leur avaient paru fraîchement coupées.
Les expertises qui vont être faites vont démontrer, et je laisse à Maître Berux qui pourra le préciser, vont démontrer qu'il y a deux coupes de brouillères.
Oui, alors expliquez-nous, Maître.
Oui, effectivement, les brouillères ont été examinées et il était considéré qu'elles avaient entre 1 et 15 jours, alors que les corps ont été
pas 6 semaines, en tout cas.
Certainement pas 6 semaines, ce qui veut dire que l'on savait, bon, les corps ont certainement été ramenés et quelqu'un les a dissimulés volontairement.
Oui, et on n'a pas retrouvé tous les vêtements du couple.
Les sacs, enfin, on n'a pas retrouvé la longe en cuir du chien.
Du chien, oui.
Et un sac à dos et le portefeuille surtout de Anne-Sophie.
Oui. Mais par contre, Gilles Naudet avait une montre de valeur, je crois.
Qui n'a pas été dérobée.
Donc,
non, ce n'était pas un crime crapuleux. Ça, je pense que ça a été exclu assez, assez rapidement.
Oui. Alors, on peut peut-être, en deux mots, Christian Porte, avancer un peu dans l'enquête. C'est-à-dire, au départ, les enquêteurs vont évidemment s'intéresser au milieu de la chasse. Ils ne rencontrent pas énormément de spontanéité, on va dire, dans l'aide qu'ils pouvaient attendre des chasseurs, on peut dire ça comme ça.
C'est le moins qu'on puisse dire, si vous voulez. Le monde de la chasse est un monde très particulier. Dans ce secteur de la forêt de Fontainebleau, de surcroît, il y a des chasseurs, des gens lambda, si je veux dire, et de hautes personnalités qui chassent aussi. Donc c'est vrai que les hommes du colonel Recordon vont à ce moment-là éprouver...
Le Recordon, c'est le commandant de gendarmerie,
c'était le patron
le colonel
de la section de recherche,
gendarmerie,
qui à l'époque menait l'enquête.
Ouais.
Ces hommes vont éprouver de grosses difficultés à pénétrer ce milieu. En plus, les gendarmes de Seine-et-Marne, des chasseurs Seine-et-Marne ont tendance à dénoncer les chasseurs essonniens et vice-versa, ce qui n'arrange rien.
Oui, ça c'est la rivalité entre les sociétés de chasse. Mais pour revenir sur les balles et les armes, puisque Maître Berux, vous connaissez ce dossier par cœur, hein, est-ce qu'on peut dire que c'était des armes de chasseurs ou pas? Des balles de chasseurs ou pas?
C'est de la balle de long rifle. Pour certains, c'est ce qu'ont d'ailleurs soutenu les gendarmes, ce serait l'arme des braconniers parce qu'elle n'est pas sonore. C'est pas l'arme des chasseurs, ça.
D'accord.
C'est une évidence.
Ouais, parce que là, c'était, tout le monde dit, c'était le jour d'ouverture de la chasse et de la chasse au gros gibier. Mais ça se chasse pas avec le genre de balle qu'on a retrouvé.
Ah bah
dans
non,
les corps.
Si vous chassez pas, maintenant c'est interdit, mais à l'époque c'était de la Brennec au niveau des...
Oui, la Brennec qui est une projectile extrêmement destructeur.
Voilà, pour sanglier, c'est la Brennec.
Ouais. Et donc, Christian Porte...
On ne chasse pas le gros gibier à la 22 long rifle.
Ouais.
Le calibre 22 long rifle est un calibre qui est utilisé pour détruire les nuisibles, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les renards, les choses comme ça, et c'est une arme qui est utilisée, qui est portée principalement par des gardes-chasse privés.
Donc les hypothèses à ce stade-là, les hypothèses, on exclut finalement le tir accidentel d'un chasseur qui chasse le sanglier ou un plus gros gibier. On pense sérieusement, éventuellement, à des braconniers qui auraient été dérangés par le couple.
C'est effectivement l'une des pistes, mais qui semble pas crédible, parce que quand on interroge les gens du milieu de la chasse, la 22 long rifle pour des braconniers, c'est pas non plus le calibre qu'ils utilisent.
Voilà. Alors, on y reviendra dans un instant, on va faire une pause tout de suite. Il y a aussi une autre hypothèse qui a été émise à l'époque, parce qu'on avait tué le chien. Pourquoi tuer le chien? Ça a mis les enquêteurs sur un certain nombre de pistes que nous allons explorer ensemble, dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Bien sûr, si vous avez des questions, des réactions à propos de cette affaire, vous pouvez nous joindre au 3210 ou pour les coups de téléphone, ou alors sur rtl.fr, comme un certain nombre d'ailleurs d'auditeurs l'ont fait, puisque je l'ai pas dit au début de l'émission, mais très régulièrement, des éditeurs nous demandent de programmer une émission sur cette affaire pour faire le point, parce qu'elle a évidemment frappé l'imagination de tout le monde et indigné aussi beaucoup de gens, et inquiété également, parce qu'elle est non élucidée. Et nous sommes avec Christian Porte et avec maître Françoise Berrux. Maître Berrux est l'avocate de la famille de Gilles Naudet. Et Christian Porte, lui, a mené l'enquête dès le début pour son journal. Et il a continué. Son journal, c'était à l'époque Le Républicain de l'Essonne. Il a continué. Il a publié il y a quelques années un livre sous ce titre, donc interrogatif, qui a tué les fiancés de Fontainebleau. Et il nous annonce maintenant que la prescription est intervenue l'an dernier dans cette affaire, un autre livre, peut-être que les informations recueillies tout au long de ces années pourront être présentées dans un autre contexte. Je m'avance pas, mais de toute façon vous serez notre invité quand le livre sortira, Christian Porte. Alors, il va falloir, je voudrais justement, tiens, qu'on fasse le point entre 1988 et 1998, 10 ans, hein, en fait, parce que c'est l'affaire va repartir d'une certaine manière, il va y avoir un rebondissement en 98. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enquête alors?
Pendant près d'une dizaine d'années, les gendarmes vont travailler avec les juges d'instruction sur diverses pistes. On va s'interroger à des terroristes. Pourquoi des terroristes? Parce qu'ils avaient planqué leurs explosifs non loin de l'endroit où les corps ont été retrouvés.
Oui, on n'a pas dit, mais il faut se souvenir qu'il y a eu une vague d'attentats terroristes dans Paris à cette époque. Là, et que les policiers ont eu des indications comme quoi un certain nombre d'explosifs étaient cachés dans la forêt de Fontainebleau, et c'était vrai.
Et c'était vrai, c'est pas très loin de l'endroit où on a retrouvé les corps. On va aussi s'intéresser à une ressemblance physique entre Gilles Naudet et le fils du président Moubarak.
Ouais.
En se demandant s'il n'y a pas eu erreur de victime.
Ouais. Oui, parce qu'il se trouve que le fils du président Moubarak avait lui-même une propriété dans la zone, quoi.
Juste à côté de chez les parents de Gilles Naudet, ainsi de suite, et qu'il y avait une vraie ressemblance entre les deux, donc, ainsi de suite. On va aussi s'interroger au mouvement d'extrême droite qui s'entraîne dans la forêt de Fontainebleau. On va aussi chercher du côté d'un ancien légionnaire qui a appartenu à la milice du général Aoun au Liban. Ouais. Il y a un certain nombre de pistes jusqu'à l'année 98, effectivement.
Ouais.
Et là, je laisse à Maître Berrux
On va en parler dans deux secondes, mais je voudrais juste ajouter une chose à ce que vous avez dit à l'instant. C'est que, on en a parlé hors micro, sur ces 10 années-là, plane quand même une question. Est-ce qu'ils ont été tués sur place? Ou est-ce que leurs corps ont été conservés quelque part? Est-ce que les cadavres ont été déplacés?
La vraie question.
Oui, mais cette vraie question, elle a été abordée par le procureur de la République, je crois.
Tout à fait. Au lendemain de la découverte des corps, le procureur de la République de l'Essonne, Roger Lucas, qui n'était pas un homme affable, il n'était pas un homme à raconter n'importe quoi, est venu faire une déclaration en disant qu'il y avait eu un déplacement post-mortem des corps.
D'où un certain nombre d'investigations sur lesquelles on reviendra un peu plus tard, et notamment sur une maison forestière qui se trouve dans la forêt de Fontainebleau, où les enquêteurs ont pu penser un moment que les cadavres avaient été conservés. Et puis on reviendra sur les terribles, comment dire, batailles d'experts pour connaître l'heure de la mort exacte, parce que ça, c'était aussi central dans ce dossier. Alors, Maître Berry, oui?
Oui, je souhaiterais juste rajouter que pendant ces 10 années, faudrait rendre hommage à Monsieur Porte, parce que, j'allais dire, de concert, régulièrement, il sortait un article pour éviter que les juges d'instruction qui se sont succédés
s'endorment sur l'affaire,
et on avait très très peur que ça soit classé sans suite.
Oui, mais c'est pour ça que je lui disais au début de l'émission, c'est une affaire qui domine sa vie et qui continue à le faire aujourd'hui. Vous avez même été interrogé en tant que témoin, je crois, non?
Tout à fait, puisque j'avais reçu des lettres anonymes de dénonciation. J'avais reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui se rappelait, dans des circonstances rocambolesques, avoir rencontré des chasseurs dans un restaurant de Seine-et-Marne qui parlaient de cette affaire alors que personne n'en parlait encore. Donc,
Voilà. Alors, on fait une pause et ensuite on va s'intéresser aux années 1998 et 1999, parce que là, on peut dire qu'on a pensé, en fait, pendant quelque temps, que l'affaire était résolue. On y a pensé même jusqu'en 2001. À tout de suite.
L'heure du crime sur RTL.
Alors je disais que après la découverte des corps de Gilles Naudet et de Anne-Sophie Van Damme, il a fallu attendre presque 10 ans, 1998, très exactement le 13 janvier 1998, pour apprendre que un coup de filet venait d'avoir lieu dans le monde des chasseurs de la région de Fontainebleau. Une vingtaine de personnes sont mises en garde à vue par les gendarmes. Alors on en parle, on en reparle là parce qu'on se dit mais c'est un rebondissement important. Puis après, rien ne se passe jusque un an plus tard, au 15 février 1999. Et là, c'est un véritable rebondissement. On apprend que 3 personnes sont mises en examen pour homicide volontaire. Parmi elles, un jeune homme de 17 ans. Il s'appelle Cédric. Il avait 17 ans en 1988, plus exactement. Et on apprend aussi qu'il est passé aux aveux. Évidemment, ça fait des titres dans toute la presse. Et sur RTL, Jacques Esnoux revient dans son journal du matin, à la fois sur l'affaire et sur cet important rebondissement qui peut tout relancer.
C'est l'histoire d'une enquête immense qui revient à son point de départ ou presque 10 ans après. Parmi les 3 hommes mis en examen figure un braconnier interrogé en 1989, l'un des premiers suspects. Mais à l'époque, les gendarmes n'avaient pas d'éléments suffisants. En 1999, ils ont peut-être la solution avec les aveux confus du fils de ce premier suspect. À peine 18 ans au moment des faits, donc mineur, apprenti armurier à l'époque, étudiant en droit aujourd'hui. Il aurait trafiqué une 22 long rifle après le drame, retardant les expertises. 10 ans de procédure, 4500 procès-verbaux, d'audition, de perquisition, d'expertise, 1600 armuriers interrogés, 15 000 22 long rifles mis en fiche, un logiciel d'analyse inventé par les Canadiens et baptisé Anac crime pour digérer les témoignages et sortir les points de comparaison sous l'œil d'un adjudant de la section de recherche de Paris collé à cette énigme depuis le début. On a tout envisagé dans cette histoire. Un crime de barbouze parce que Gilles Naudet avait fait son service dans le chiffre. Un crime politique parce qu'il ressemblait soi-disant de loin à un fils du président Moubarak. Un crime de routier. En 93, un Portugais a été arrêté puis relâché. Et bien sûr, les braconniers, suspects les plus plausibles de l'Essonne ou de la Seine-et-Marne. Le fils de l'un d'eux a donc passé des aveux qui demandent des vérifications. Cette affaire n'aboutira jamais, disait en 93 un magistrat d'Evry. L'un de ses collègues proclamait « Le mystère sera résolu ».
Alors, maître Françoise Berux, maintenant, je voudrais que vous nous aidiez à comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. On a ce jeune homme qui avait 17 ans à l'époque des faits, qui est le fils d'un braconnier qui avait été donc pris dans le coup de filet de l'année précédente qu'on a abordé. Il fait des aveux. Qu'est-ce qu'il dit dans ses aveux ?
Il reconnaît avoir tué Gilles et Anne-Sophie.
Il dit pourquoi ?
Non, il explique surtout la manière dont il a procédé. Il explique qu'il a entendu couiner le chien, que Gilles haletait effectivement une des premiers projectiles, perforer le poumon.
Oui.
Explique qu'Anne-Sophie a fait des gestes de défense et effectivement un projectile a touché ses mains.
Et ça correspond aux constatations de...
Tout à fait, qui ont été faites préalablement.
Oui,
voilà. Ensuite, explique. Alors, il semblerait qu'il braconnait. En fait, il a un profil très particulier. Quoi. Il passe son temps dans la forêt. Il la connaît par cœur, même si au début il conteste connaître ce lieu.
Oui.
C'est le Rambo grimé en treillis. Il adore les armes depuis l'âge de 14 ans. Il utilisait les armes. Son père lui a appris à tirer à 6 ans.
Oui.
C'est une famille assez particulière.
On ne trouve pas les armes. Il y a les assassins du couple se sont servis de 2 armes.
Tout à fait. Mmh. Et lui explique, il parle d'une arme et explique qu'il l'a modifiée à telle enseigne que quand on a examiné l'arme, il était impossible de voir qu'elle avait été modifiée et donc elle ne correspondait pas à celle qui avait été utilisée. À l'époque, il était étudiant à Liège dans une école d'armerie.
D'accord. Alors, il faut dire, pour la vérité des choses, qu'il y a ses aveux et puis qu'il va se rétracter devant le juge d'instruction. Assez rapidement après sa garde à vue, en fait.
Voilà. Hein. Ouais. En fait, après sa garde à vue, il est transféré à Évry. Là, il rencontre un enquêteur social. Bon, il explique que tout s'est bien passé. Et puis ensuite, chez le juge d'instruction, il expliquera qu'on lui a extorqué ses aveux.
Oui. Alors, Christian Porte, votre commentaire là-dessus. Parce que en 2001, il va y avoir un procès. Cédric va comparaître devant la cour d'assises des mineurs. Évidemment, un procès à huis clos, puisqu'il était... Il n'avait pas 18 ans au moment des faits. Cette piste, vous la mettez où dans l'ensemble du dossier que...
Pour moi, c'est une piste comme les autres. Si vous voulez, pas plus, pas moins. Comme vient de le souligner Maître Berux, il y a des déclarations qui sont faites par par Cédric. Mais on s'aperçoit très vite qu'il revient dessus. Mmh. Et on va surtout s'apercevoir, quand on va en arriver au procès, même s'il a eu à huis clos, on va s'apercevoir que les gens... Cédric dit, les gendarmes m'ont soutiré ce que j'ai dit. C'est traditionnel, ainsi de suite. Mmh. Et on va s'apercevoir que, effectivement, plus tard, que les gendarmes qui prétendaient ne pas connaître le dossier le connaissaient parfaitement.
Alors justement, à propos de ce que vous venez de dire, on va entendre un document RTL qui date du 30 novembre 2001, c'est-à-dire le jour du verdict de ce procès, où Cédric s'est retrouvé finalement... seul devant ses juges. On pourra peut-être en reparler dans un instant. Le procès va durer 10 jours. L'avocate générale avait requis entre 25 et 28 ans de réclusion criminelle. Et puis, le procès débouche sur un acquittement. Écoutez le compte-rendu d'audience que faisait le lendemain sur RTL Stéphane Marie.
Pendant 10 jours, les avocats de Cédric se sont employés à démonter point par point les arguments de l'accusation. Lorsque les représentants des parties civiles ont avancé que l'accusé avait livré des aveux, ils ont rétorqué qu'ils avaient été extorqués après 38 heures d'une garde à vue difficile. Lorsque ce jeune homme qui a étudié la psychologie criminelle et qui est fou d'armes à feu a été présenté comme un Rambo, ses avocats ont fait témoigner ses amis qui l'ont décrit comme quelqu'un de calme, posé. Après, pour Maître Popper, l'un de ses avocats, il y a aussi les faits. Ce jeune homme, frêle, âgé de 17 ans à l'époque du drame, ne pouvait pas porter seul les deux carabines du crime. Mais pour Franck Nathalie, son autre conseil, c'est le témoignage de sa petite amie qui a été déterminant. En la déposant le jour du drame au quart de 13h44 pour Montargis, Cédric n'avait plus le temps matériel de se rendre sur les lieux du double meurtre.
Ces témoignages ont été fondamentaux car ils ont permis de mettre en évidence que lors de la journée du 31 octobre, il ne pouvait pas avoir participé à ces faits.
Après 4h30 de délibéré, les jurés l'ont donc acquitté. À l'énoncé du verdict, il est resté incrédule, puis il est tombé en larmes dans les bras de son avocat.
Et si Cédric n'était pas l'assassin d'Anne-Sophie Vandamme et de Gilles Naudet, alors qui a tué les fiancés de Fontainebleau? On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Maître Françoise Berux et le journaliste Christian Porte sont mes invités. On parle des fiancés de Fontainebleau, on a parlé de ce rebondissement où tout le monde a cru, et j'imagine Madame Berux également vos clients, quoique voilà, on aboutissait enfin à la vérité.
Enfin. Oui. Donc, tout à fait. Ça partait d'une déclaration anonyme, qui ne l'a pas été d'ailleurs, parce que très vite on s'est rendu compte qui avait fait cette déclaration.
Oui.
Mais c'est vrai que Cédric cadrait, j'allais dire, dans cette affaire.
Mais les juges...
Après 4h30 de délibéré, l'ont acquitté, on ne revient pas dessus.
Voilà, et pour des raisons qu'on a entendues.
C'est une décision définitive.
Voilà. Alors, Christian Porte, si ce n'est pas Cédric, voyons... de quel côté on pourrait aller chercher l'identité éventuelle ou les identités de celui ou de ceux qui ont tué ce couple. J'ai parlé très rapidement tout à l'heure d'une maison forestière. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La maison de la Vendée.
C'est la maison de la Vendée qui se trouve à proximité de l'endroit où on a retrouvé les corps.
Oui.
On peut en dire une chose, les gendarmes y ont fait des prélèvements qui ont été plus ou moins contestés, contestables, ainsi de suite. Reste qu'au moment du procès, l'un des agents forestiers qui avait en charge l'entretien de cette maison est venu faire une déclaration étonnante, pour pas dire explosive. Il est venu dire que son chef lui avait demandé d'aller voir si tout était bien dans cette maison, tellement il avait peur qu'on y retrouve les corps.
Avant donc la découverte des corps.
Avant la découverte des corps. Et dans la suite, il raconte aussi qu'il a brûlé une lettre d'un de ses collègues qui certifiait ne pas être impliqué dans cette affaire. Ce qui laisse quand même supposer quand même qu'il y avait des gens qui n'avaient pas l'esprit très clair ou très, très serein à ce moment-là.
Ouais. Et donc, cette hypothèse quand même du fait que les corps ne sont pas morts là où on les a trouvés, elle est très forte toujours pour vous.
Elle est toujours très forte. Je pense que Maître Berux pourrait en parler mieux que moi. Les experts n'ont jamais été capables de dire avec détermination quand les deux jeunes gens ont été tués.
Ouais. Mais l'état des corps, Maître Berux...
On a même considéré que puisque les animaux sauvages ont rogné des parties des victimes, que s'ils étaient restés au même endroit, ils auraient été beaucoup plus abîmés par les bêtes sauvages.
D'accord. Donc il reste cette énigme. Où les corps ont-ils pu être entreposés pendant quelque temps, quoi.
Et puis il y a Madame Naudet qui dit aussi que quand on lui a présenté le blouson de Gilles et d'Anne-Sophie, ils étaient, je la cite, sous couvert de Madame Berux, disaient comme sortis de chez le teinturier. Incompatible avec un séjour dehors.
Mais incompatible aussi avec un séjour hors chambre froide. Autrement, on aurait retrouvé les corps dans un état de décomposition plus avancé.
Et puis, si on ajoute que, justement, il y a cet hélicoptère de gendarmerie qui a survolé à 5 mètres du sol, les lieux, c'est quand même étrange. Et le lieu avait été quand même aussi ratissé par les gendarmes, quoi. Alors, on ferme le banc là-dessus. Il y a des ADN inconnus, Christian Porte, qui ont été trouvés.
Oui, il y a des ADN inconnus. Il y a 5 ADN inconnus qui ont été trouvés sur les lieux on a trouvé les corps, mais qui n'ont jamais été expertisés. La juge d'instruction n'a pas estimé nécessaire. Ou plus ou moins, ça coûtait trop cher de les faire expertiser.
Il y a eu des aveux spontanés d'un quelqu'un qui était incarcéré. Vous pouvez nous en dire un mot ? Parce que ça n'a pas été suivi de...
Alors, il se trouve qu'à un moment donné, effectivement, un détenu, un co-détenu, fait des déclarations en disant que son co-détenu fait des révélations sur l'affaire de Fontainebleau. Les gendarmes vont venir écouter le co-détenu, ainsi de suite, vont noter que c'est une piste intéressante, qu'on verra plus tard. Ils ne sont jamais allés l'interroger quand...
C'est à propos de cela qu'on avait dit ou laissé filtrer que on n'était pas allé plus loin parce que ce qu'avait dit ce co-détenu, il avait pu le trouver dans les journaux.
Oui, c'était une excuse, effectivement.
Vous avez un mot là-dessus
Simplement, lorsque j'ai envisagé que le parquet allait réouvrir une information après l'acquittement, je constate que, ça n'a pas été le cas, mais qu'il y avait matière à réouvrir l'enquête.
À partir de là, voilà. Alors maintenant, il reste une piste, c'est ce curieux suicide dont vous pouvez peut-être nous rappeler les circonstances et pourquoi ça vous paraît un événement important.
C'est-à-dire qu'en mars 94, si j'ai bonne mémoire, donc quelques années après les faits, j'apprends tout à fait par hasard que le responsable de l'ONF du secteur où se produit le drame s'est suicidé.
ONF, c'est Office National des Forêts, donc
qui gérait l'organisation de la chasse ce jour-là. J'apprends qu'il se suicide, on en reste là, ainsi de suite. Ce suicide ne fait l'objet d'aucun procès verbal de la part des enquêteurs. Les enquêteurs vont dire qu'il avait des problèmes familiaux, donc on n'a pas été plus loin. Pire, le président de la cour d'assises, Alain Verlaine, va l'appeler le jour de l'ouverture du procès et va découvrir ce jour-là, comme les avocats de la défense, que ce monsieur s'est suicidé des années avant. Les gendarmes n'en ont jamais parlé.
Et donc pour vous, il y a peut-être dans cet événement-là, en tout cas, une des clés du mystère.
Il y a sûrement une des clés de ce mystère. Si on rapporte au témoignage de l'un de ses subordonnés qui dit « Mon chef avait peur qu'on trouve les corps dans la maison forestière », on ne peut que s'interroger, Jacques.
Bon, et j'imagine que dans le livre « Apparaître », d'ici la fin de l'année, vous en parlerez plus longuement.
C'est l'une des pistes.
Je vous remercie beaucoup, Christian Porte. Un mot encore, Maître Berux, on a dit... La prescription est intervenue l'an dernier. Il n'y a plus aucune possibilité de relancer l'affaire.
Non, il faudra un élément nouveau.
Si quelqu'un se révèle
très important,
maintenant,
mais
la justice ne pourra rien.
Rien, il ne peut pas être condamné. Prescrit.
Voilà, donc c'est un dossier à la fois passionnant et terrible.
Tout à fait.
Et je vous remercie beaucoup donc d'avoir éclairé d'abord l'équipe de cette émission et puis tous ceux qui nous l'ont demandé, qui nous écoutent régulièrement, qui nous en avaient parlé sur rtl.fr. Merci, l'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques secondes.